Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Sainte Madeleine Sophie Barra. Sainte Madeleine Sophie Barra a une paroisse dans le nord de la ville, à son nom, et c'est une femme, une éducatrice exceptionnelle, et une grande sainte, fondatrice des Sœurs du Sacré-Cœur, qui ont éduqué énormément de nos femmes ici, de nos jeunes filles. Elles sont toujours là, et il y a toujours un couvent du Sacré-Cœur sur le chemin de la Côte-des-Neiges, là, pas tellement loin du grand séminaire de Montréal et de l'hôpital général de Montréal. Grand couvent, grande maison d'enseignement. Et Sainte Madeleine Sophie Barra, on a dit d'elle que c'était le feu. Oui, parce qu'elle est née à l'occasion d'un incendie. Et c'était, ça a marqué sa vie, si on peut dire. Mais avant de vous dire ça, je voudrais vous dire que le nom de famille qu'elle porte, Barra, B-A-R-A-T, c'est un sobriquet qu'on avait donné il y a des siècles à ses ancêtres. Et, chose étrange, ça veut dire tromperie ou ruse. Or, c'était pas du tout son cas, c'est tout le contraire. C'est la franchise, l'humilité. Il n'y a rien de rusé chez elle, au contraire. C'est une très grande éducatrice qui va fonder sans arrêt jusqu'à sa mort des couvents où on éduque les filles partout, presque d'un bout à l'autre du monde. C'est absolument phénoménal, une œuvre grandiose. Donc c'est au cours d'un incendie qu'elle vient au monde, Sainte Madeleine Sophie Barra. Elle aime à le redire, à le raconter, elle a de l'humour. C'était dans la nuit du 12 au 13 décembre 1779, il y a plus de 200 ans, qu'il y a eu un violent incendie qui a éclaté chez les voisins de son père, Jacques Barra, à Joigny, dans Lyonne. Dans Lyonne, mon Dieu, c'est là qu'il y a la fameuse abbaye de la Pierre qui vire, c'est dans cette région qu'il y a Thésée, etc. Et cet événement tragique impressionne vivement Madame Barra, qui s'appelle Marie-Madeleine Fouffé, curieux nom, hein, F-O-U-F-E, accent aigu, qui met au monde plusieurs mois avant la date escomptée, plusieurs mois, souvent à un moment où on avorte encore, parfois. Eh bien, la petite Marie-Sophie vient au monde à ce moment-là. C'est une enfant prédestinée, mais très précoce. Elle est sauvée de justesse. C'était même tragique quand on lit le récit dans une vie un peu romancée, qui est très bien faite d'ailleurs, d'Ornella Chiara Brocchi. C'est écrit en italien, Umile et Alta. Et la préface est due à Igino Giordani, dont je vous ai déjà parlé, qui a fondé les Focolari, avec Chiara Lubich. Et on raconte la naissance au début, c'est tragique, vraiment tragique. C'est surprenant qu'elle ait survécu. Ils l'ont même baptisée le jour même. Puis à cette époque, il fallait bien baptiser les enfants pour qu'ils aillent au ciel, autrement ils allaient au limbe. C'était la croyance étrange. Et c'était la neige et tout. Et cet enfant, à peine viable, a été baptisé le jour même de sa naissance. Il y a déjà deux enfants chez les Barra quand elle vient au monde. Ce sont de simples vignerons, ses parents. Famille très humble, très simple. Il y a Louis, âgé de 11 ans, puis Marie-Louise, qui a 10 ans. Et elle, qui est née donc dans de telles circonstances, elle paraît si petite, si maigre, si chétive, que l'on, évidemment, on croit qu'elle va mourir. Et c'est comme ça qu'elle est baptisée le jour même. Et on choisit comme parrain son frère Louis, parce qu'il n'y a pas le temps d'aller chercher le vrai parrain qui est à l'autre bout du monde. Et puis, une fille qui est en visite par hasard et qui s'appelle Sophie. C'est pour ça qu'elle va avoir le prénom de Sophie ajouté à Madeleine, qui est en fait le nom de sa mère. Et son frère Louis, qui est tout jeune, comme je vous ai dit, il a 11 ans, il commence à ressentir une paternité spirituelle vis-à-vis sa sœur. Et il va devenir prêtre. Il va exercer sur sa sœur, Sainte Madeleine Sophie, un ascendant énorme. Il aura une énorme influence sur elle. Un vrai parrain, presque exagéré. Madeleine Sophie est d'une nature fougueuse, elle a du caractère. Mais heureusement, elle est aussi douée d'une grande délicatesse de cœur, qui lui permet souvent de consoler sa mère des souffrances qu'elle doit endurer de la part de son mari qui, à l'occasion, n'est pas un très bon mari. Sophie est admise à l'âge de 10 ans faire sa première communion. C'était l'âge habituel à l'époque et c'est aujourd'hui redevenu l'âge habituel. Autrefois, c'était 6 ans dans mon jeune temps. Au cours des années suivantes, Madame Sophie est donc soumise par son frère Louis, qui est devenu séminariste, à une certaine discipline morale et intellectuelle qui l'aide à se construire. Autrement, elle serait peut-être devenue un peu folichonne. Et malgré les critiques dont les barras sont l'objet de la part du voisinage, et aussi par une disposition, on est bien obligé de reconnaître une sorte d'intervention de Dieu, une intervention providentielle, la future fondatrice de la Société du Sacré-Cœur, ou la Congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur, si vous voulez, reçoit une initiation littéraire et scientifique très sérieuse. On voit déjà se dessiner chez cette fille de vigneron la future grande éducatrice qu'elle sera, très jeune. Elle aime bien Virgile. Elle aime lire Homère aussi. Son frère, l'abbé Barra, ordonné prêtre en 1795, en pleine période difficile, hein, c'est la Révolution et tout ça, il parvient à convaincre sa mère et il amène sa sœur, Madeleine Sophie, à Paris pour compléter ses études. Et Dieu continue à préparer Madeleine Sophie Barra à devenir quelqu'un qui fait aimer le Sacré-Cœur. Qui fait aimer le Sacré-Cœur par les jeunes filles qui vont lui être confiées. Pourquoi faire aimer le Sacré-Cœur, diront certaines personnes? Parce que le Sacré-Cœur, c'est ce cœur que l'on voit sur certaines images ou certaines statues. On regarde ça souvent d'un œil blasé. Mais quand on le comprend, on voit ce cœur brûlant d'amour. Je me souviens d'avoir amené un témoin de Jéhovah à l'église Notre-Dame pour lui montrer comme c'était extraordinaire. Il n'avait jamais osé rentrer. Il a été stupéfait devant la statue du Sacré-Cœur. C'est là qu'il a saisi ce que ça voulait dire. Il avait vu ça des fois devant des églises. Mais là, il a compris l'amour de Jésus-Christ. Et ça lui avait fait beaucoup de bien parce que vous savez que les témoins de Jéhovah ne croient pas en la divinité du Christ. Ils ne sont pas tellement attachés à Jésus-Christ. Alors, c'était la Révolution, comme je vous ai dit. Alors, le prêtre célébrait la Sainte Messe dans le logis qu'il habitait avec sa sœur, à Paris, rue de Touraine. Et Sophie, elle complète finalement sa culture par l'étude des langues, et en particulier l'espagnol, qui est une langue faite pour parler à Dieu, disait-elle. C'est vrai que c'est une belle langue pour parler à Dieu, l'espagnol. Et elle fait aussi, chaque jour, plus ample connaissance. Avec quoi? Avec la croix. Comment ça? Son frère est très exigeant, peut-être un peu trop quand je vous ai laissé entendre tout à l'heure. Et sa vie est dure et austère, et elle trouve le secret dans tout ça de la soumission et d'une profonde humilité. Non, son frère a 10 ans de plus qu'elle, il est prêtre, alors elle apprend l'humilité. Elle en arrive à être certaine de sa vocation religieuse, finalement. Alors elle pense aux sœurs converse carmélite, l'humilité chez les carmélites. Être converse, à l'époque, ça existait, n'est-ce pas? C'était des sœurs qui n'allaient pas au cœur, souvent, et qui faisaient plus de travaux que les autres, au manuel. Mais en 1800, son frère, l'abbé Barra, rencontre un jésuite remarquable, le père Varin, qui vont convaincu que Dieu lui a confié le soin de fonder la Société du Sacré-Cœur destinée à l'éducation des jeunes filles du monde. Sophie le prend comme directeur et sa direction l'épanouit. Il est plus nuancé que le frère de Sophie. Oh, beaucoup plus nuancé. C'est un bon jésuite. Ce jésuite enthousiasme bientôt Sophie. Il lui fait entrevoir un apostolat de restauration spirituelle où elle pourrait mettre à profit toutes ses connaissances, sa culture, puis se dépenser à plein cœur auprès des jeunes filles. Et les exhortations du père Varin à se vouer comme ça à la cause du Sacré-Cœur ont raison de Madeleine Sophie Barra, puis elle décide d'obéir à la volonté de Dieu. La Société du Sacré-Cœur est, pour ainsi dire, fondée comme ça. tout simplement. Et cet événement se passe dans l'appartement de la rue de Touraine où elle habite avec son frère. C'est le 21 novembre 1800. Et là, c'est le jour où la fondatrice et quelques compagnes s'offrent au cœur de Jésus. On les appelait des mères, comme on dit des pères jésuites. Alors ce sont des mères. Elles se veulent des mères pour les jeunes filles. Alors les premières mères sont au nombre de 4. Et qu'est-ce qui les anime? C'est la générosité. Le mot revient très souvent, la générosité. Et les mémoires du temps rapportent d'elles cette résolution. Nous avons décidé de bannir de chez nous ces petitesses de couvent. Et là, elles y vont pas de même morte à l'égard des certaines autres congrégations religieuses. Nous avons décidé de bannir de chez nous ces petitesses de couvent, ces retours d'amour propre. Ces retours d'amour propre. Elles ajoutent, le Sacré-Cœur de Jésus ne veut que des âmes grandes. Alors, ce sont les fondations qui commencent de 1801 à 1810. En octobre 1801, la Société du Sacré-Cœur obtient la direction d'un pensionnat à Amiens. Ce sera là le début dans la ville d'Amiens, dans le nord de la France. Et la petite communauté vit dans la pauvreté, l'obéissance, la générosité toujours. Et Sophie Barra dirige les classes supérieures parce qu'elle a plus de culture que peut-être les autres. Mais elle est jeune, hein? Elle fait profession religieuse le 7 juin 1802. Elle est peu après, et malgré sa répugnance, nommée supérieure, à 23 ans seulement, 23 ans. Et son supérieurat est marqué tout de suite par l'humilité, une très grande défiance de soi. Madame Barra tombe malade, mais ce n'est rien finalement. Et le pensionnat Damien, sur ses entrefaites, est installé dans la maison de l'oratoire. L'oratoire dont je vous parlerai demain, c'est les oratoriens qui sont fondés par Saint-Philippe Néri. Je vous parlerai de ça. Qu'est-ce que c'est que ces oratoires? Alors, pour le Sacré-Cœur, ça va demeurer le berceau de leur congrégation. Et ce berceau va devenir très rapidement beaucoup trop petit. Vous allez voir, ça va grandir. C'est une œuvre phénoménale que l'œuvre de Madeleine Sophie Barra, cette femme intérieure, cette grande sainte, cette femme de prière et de raison et d'action. Le père Varin, le jésuite dont je vous ai parlé, projette une fondation à Grenoble. Ça commence. Ils sont à Amiens, maintenant Grenoble, à Sainte-Marie d'en haut, comme on dit. Un endroit, d'ailleurs, aux horizons grandioses, c'est superbe. Hein? C'est un monastère qui garde le souvenir de Saint-François de Sales et de Saint-Jean de Chantal, le monastère de la Visitation, quoi. Et Madame Barra, bien, elle est secondée dans ce nouveau supérieurat par Madame Duchesne. Madame Duchesne brille surtout par la vertu de force. Ça prend des femmes, super femmes, souvent pour faire ces œuvres fantastiques. Et l'un des mots d'ordre, c'est, j'ai dit tout à l'heure, générosité. C'est aussi sérénité immuable, une sérénité immuable, une douceur souriante encore, au milieu des pires contradictions. Ça rejoint un peu l'esprit de Saint-Philippe Néri, le saint de la joie dont il sera question demain. Alors les contradictions, à ce qu'il paraît, ne seront pas ménagées aux nouvelles qui se présentent pour devenir membre de la communauté. Comment ça? C'est que depuis la fondation de Grenoble, la société compte donc deux maisons, Amiens et Grenoble, et il faut une supérieure générale, et c'est Madame Barra qui reçoit cette charge le 18 janvier 1805, elle a à peine 25 ans. Et dès le mois de juin 1806, la mère générale est priée par le père Varin de se rendre à Poitiers pour faire une troisième fondation, ça va vite, vite, vite. Elle y forme un noviciat d'une dizaine de postulantes. Alors, ça prend du caractère, ça prend une bonne formation, et les postulantes, les novices, sont vraiment formés d'une façon presque militaire, mais avec douceur, dans un esprit qui ressemble à celui des jésuites, petit à petit, vous allez voir. Le 10 mars 1807, Napoléon approuve par décret la société qui se trouve de ce fait bien établie. L'empereur établit cette congrégation, et l'année suivante, en 1808, elles sont établies dans une autre ville, à Niort. Et les débuts de cette quatrième fondation se font dans le dénuement, la pauvreté. C'est pas facile. Le Sacré-Cœur, comme on dit, y ouvre une école gratuite. Gratuite. Qui rassemble 60 élèves et un pensionnat qui ne compte d'abord que 2 enfants. Et c'est cette maison que Mme Barra a décidé de fermer parce qu'il n'y a pas assez de pensionnaires. Mais après avoir prié devant Saint-Sacrement, là, elle leur donne Bah, que l'on continue. Elle fait confiance à Dieu. C'est dit avec assurance. Et la sagesse surnaturelle a des lumières qu'ignore la prudence humaine, évidemment, comme on dit souvent, hein, c'est une formule qu'on entend. Ça, la sagesse surnaturelle a des lumières qu'ignore la prudence humaine. Et quand on est trop prudent sur le plan humain, on n'arrive pas à faire de grandes choses spirituelles. Alors là, il faut établir les constitutions, c'est des écrits, ça, qui vont bien établir l'organisation, parce que ça prend une organisation avec certains règlements, et une première rédaction des constitutions se révèle plutôt imparfaite, hein. C'est pas conforme avec l'esprit qui a présidé à l'Institut quelques années plus tôt. Et Mme Barra souffre tellement des difficultés qui s'élèvent alors qu'elle en tombe gravement malade. C'est pas facile d'administrer avec d'autres personnes qui ont des idées différentes. Et la consigne toute surnaturelle en ces jours-là, c'est quoi? Ben, prier, souffrir, patienter, puis espérer. C'est comme ça qu'on arrive à de grandes choses. Et la mère Barra, ben, elle se conduit comme une sainte, déjà. Puis, elle adhère par obéissance aux décisions qui dénaturent profondément l'esprit, puis le but de son Institut du Sacré-Cœur. On découvre bientôt que les décisions qui se donnent comme approuvées par Rome sont l'œuvre de la mauvaise foi. Alors, en 1815, les véritables constitutions qui sont élaborées par le jésuite, le père Varin et la mère Barra, dans la souffrance et la prière, sont enfin rédigées. On y est. Et en voici les dispositions essentielles. Je vous fais un résumé très bref. Le but de la société, c'est la glorification dans l'amour du Sacré-Cœur, par la sanctification personnelle et le salut, ou si vous voulez, la libération du prochain. Les religieuses font le vœu de se consacrer à l'éducation des jeunes filles. La supérieure générale est nommée à vie. Elle est assistée d'un conseil. Voilà. Alors reste maintenant à établir un noviciat général. Il est installé dans l'hôtel Biron, un bel hôtel particulier rue de Varennes à Paris, dont elles héritent. Les constitutions, bien, c'est évidemment indispensable, les constitutions, et c'est surtout l'esprit qui fait vivre un institut. Or, les fondateurs et les fondatrices de la Société du Sacré-Cœur sont animées d'un dévouement passionné. Passionné à quoi? À tout ce qui peut plaire à ce qu'elles appellent l'amour divin. Vous savez, quand on dit que on a découvert l'amour divin depuis quelques années, vous entendez? Ça fait 200 ans. Alors, c'est ce qui leur fait choisir ce si beau vocable pour la nouvelle congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur. Et voici en quels termes Sainte Madeleine Sophie Barra enseigne à ses filles l'esprit qu'elles doivent avoir. Ce sont ses paroles, je vous les cite. « Mon unique vœu est de vous voir répondre au projet du divin cœur de Jésus et par là vous rendre propre à lui gagner des âmes. Je prie le Sacré-Cœur de remplir vos âmes de dévouement à sa gloire, à son amour. Si nous savions ce que c'est que d'être les épouses du cœur de Jésus, afin d'avoir le bonheur de faire connaître ce cœur divin, aucun sacrifice ne nous paraîtrait pénible. Une épouse du Sacré-Cœur ne remplirait pas sa vocation si elle ne partageait pas le zèle brûlant qui dévorait le cœur de Jésus pour le salut des âmes. » Ces dernières paroles visent le but essentiel de l'Institut. L'éducation religieuse des jeunes filles. Pas l'éducation gnagnan, l'éducation religieuse des jeunes filles de la société. Parlant de l'oraison, elle connaît l'oraison. Il ne s'agit pas seulement de nous sanctifier. Il faut encore que nous travaillions à communiquer aux autres cet esprit d'oraison. Et Sainte Madeleine Sophie Barra excelle dans l'art de conduire les cœurs au cœur de Jésus. C'est son grand amour des âmes qui attire le monde à l'amour infini. Et la mère Barra a des délicatesses inspirées par la charité pour toutes les jeunes filles qui l'approchent. Elle est formidable. Les plus jeunes ont le privilège de provoquer surtout ses attentions. Elle est très attentive aux plus jeunes. Sainte Madeleine Sophie, c'est une vraie maman générale, on pourrait dire. Surtout pour les plus petites. Et parfois, on n'arrive pas, dans son quartier général, à se boucher les oreilles parce qu'on entend les cris des petits-enfants là-bas dans la cour. Alors finalement, elle n'en peut plus, elle descend. Elle leur adresse alors des paroles affectueuses. Elle dit « Je vis pour vous. Oui, je vis pour vous. Pour le salut éternel de vos petites âmes. Et je passe mes journées loin de vous, mes enfants. C'est si triste que je ne peux plus résister à venir vous voir. » Les fillettes se mettent à genoux, puis elles entourent leur mère générale de tous côtés, leur maman générale, on pourrait dire. En d'autres circonstances, elle fait preuve d'une grande discrétion. Lorsque des petites laissent couler des larmes au moment d'endosser un tablier pour préserver l'uniforme bleu de roi, les petites filles sont très sensibles. Eh bien, la bonne mère Barra recommande à la surveillante d'y aller doucement dans ces cas-là, de ne rien exiger sans les persuader. Faut persuader les enfants. Comment? Elle dit, respectons l'enfance. C'est une éducation très moderne. Respectons l'enfance. Honorons l'âme de cette petite créature faite à l'image de Dieu et qui a déjà le choix de ce qui est meilleur. Si l'on prend le temps d'éveiller sa raison et de faire opérer son jugement, laissez-les se tâcher leur robe une première fois. Au réfectoire, donnez-leur au début ce qu'elles aiment. Demandez-leur avec bonté. Bien vite, vous les verrez d'elles-mêmes vouloir faire comme leurs compagnes plus âgées. C'est alors qu'il est touchant de voir la séduction du bon exemple agir dans une âme pure. Le cœur de Jésus se reflète dans un cœur innocent. Vous direz que c'est dit dans des mots anciens, des mots très spirituels, très religieux. Mais il n'en reste pas moins que la doctrine, la pensée éducative de sœur Barra est remarquable. Et quelques petites élèves se faufilent avec les sœurs portières pour aller voir leur sainte mère. Et là encore, la mère supérieure, la mère Barra, rassure et instruit le monde. Puis elle dit comme si deux ou trois enfants pouvaient me déranger. Voyons, toute religieuse voit la jeunesse, doit se prêter aimablement à ces mille petits plaisirs qui font le bonheur des élèves, qui ne seront nôtres et en famille avec nous qu'à ce prix. Sans ces vues-là, sans ce cordial et habituel dévouement puisé dans le cœur de Jésus, ne me parlez pas d'une prétendue religieuse du Sacré-Cœur. Elle n'a pas encore compris l'ABC de ses obligations. C'est une maîtresse de pension. Oh, je pourrais vous signer d'autres paroles d'elle. Elle est merveilleuse, Sainte Madeleine Sophie Barra. Je reviens donc à sœur Madeleine Sophie Barra. Sainte Madeleine Sophie Barra. On raconte d'elle toutes sortes de traits sympathiques, hein, ça vaut la peine de les raconter. Il y a des petites filles qui viennent pour lui faire leur confidence. Elles vont droit à elle. Elles sont pas intimidées par elle parce qu'elles sentent l'amour. Alors, elles sont tellement petites qu'elles se haussent sur la pointe des pieds pour lui glisser tout bas à l'oreille alors qu'elle est assise. Quelques mots. Un quart d'heure suffit pour 20 de ce genre. Le sourire de cette Madeleine Sophie Barra s'efface parfois pour faire place au recueillement. Et elle dit quelque chose de vraiment remarquable. Il ne faut pas trahir la liberté qui se fait jour dans leur âme pour nous demander secours, appui et amour. Il y a une petite fille qui écrit à l'enfant Jésus, c'est très sympathique, bon, on dirait que c'est quétaine, c'est pas quétaine. Une petite fille écrit à l'enfant Jésus un billet. Écoutez bien ça. Toute petite. Mon petit Jésus, je fais vœu de pauvreté, de charité et d'obéissance. Je mets charité parce que je ne sais pas ce que c'est que chasteté. Et Sainte Madeleine Sophie Barra s'est extasiée sur ce vœu de charité qui est écrit par une enfant si jeune. Alors, surviennent bien des épreuves dans la vie de Mère Barra, parce que fondée comme ça, et les sœurs du Sacré-Cœur sont définitivement lancées, si on peut dire, et la période de croissance est marquée par des extensions nombreuses. Je vous fais une liste rapide de quelques villes. Bon, Beauvais, Lyon, Bordeaux, Le Mans, Autun, Besançon, Turin. Vous connaissez Turin? Le pape y est allé hier pour vénérer le Saint-Suaire de Turin, dans le nord de l'Italie, près de la France. Metz, Lille, Perpignan, Avignon, puis finalement à Rome. Une mission est même fondée en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Ça commence à travers le monde. Et en 1826, les constitutions sont retouchées. aux trois vœux invariables de chasteté, pauvreté et obéissance, on ajoute celui de stabilité dans la congrégation. Rome approuve les constitutions l'année suivante, puis il y a des vocations remarquables, beaucoup de vocations, et des remarquables qui affluent au Sacré-Cœur. J'en cite une qui est très particulière, très spéciale, et qui montre bien une des vertus fondamentales de cet institut, qui est la générosité, comme je vous ai dit au début. C'est la princesse russe Galitzine, une orthodoxe convaincue, attachée à la grande orthodoxie, mais des orthodoxes russes. Et elle cède à l'appel de Dieu après de grandes résistances. Alors évidemment qu'elle se convertit au catholicisme, elle n'a pas besoin de se faire baptiser orthodoxe comme les catholiques, avec une mince différence, difficulté de reconnaître le pape. Et puis elle entre au Sacré-Cœur. Elle est remplie d'une énergie, cette Russe, et d'une confiance toute surnaturelle. Et elle dit, je vais pouvoir dire en arrivant à la porte du ciel, ouvrez-moi, j'ai obéi. Tant de bien ne se fait pas, évidemment, sans de grandes souffrances, je vous l'ai dit. Mère Barra dit un jour, je cueille les épines à pleine main. Et là, la révolution de 1830, hein, il faut lire ça, ce sont des épisodes, je peux pas tout vous raconter, mais c'est terrible. Au moment de la révolution de 1830, à Paris, ça oblige, puis un peu partout en France, oblige la congrégation à se disloquer. Les sœurs doivent se cacher, se costumer, si on peut dire. Le noviciat est transporté en Suisse, près de Fribourg. Et puis 2 ans plus tard, la supérieure générale, Sainte Madeleine Sophie Barra, revient en France. Elle examine de nouvelles demandes de fondation, encore. Puis elle visite ses maisons du sud de la France. Puis elle se rend à Rome. Elle fait une halte à Turin où un médecin la guérit d'un mal de jambe, dû à une chute. Ça l'avait beaucoup fait souffrir au moment de la Révolution 1830. Elle a même été transportée par un homme qui criait « Vive la Révolution !» Et puis, mais elle n'était pas habillée en sœur, elle était habillée en vieille dame, en simple femme, très humble. Le pape Grégoire XVI vient sans avertir lui rendre visite à Turin. Et il lui témoigne le grand désir qu'il a de voir prospérer son institut, dont la règle, lui dit-il, est l'œuvre de Dieu n'en pas douter. Il ne doute pas. Parce que c'est tellement fantastique, hein. Et la supérieure installe le noviciat donc à Sainte-Ruffine, puis elle rentre à Paris, et sa charge l'oblige à de nombreux déplacements. C'est pas facile. Surtout qu'à cette époque, il fallait se déplacer en diligence ou dans des conditions extrêmement rudes. Au cours de l'un de ses voyages, Mère Barra a une occasion parmi bien d'autres de montrer son humilité profonde. Elle a préféré l'obéissance au commandement. C'est une anecdote. Voici un exemple. Elle est un jour donc accompagnée par une religieuse d'une éducation, disons, peu raffinée. Bon, c'est pas de sa faute, ça peut être une excellente religieuse, mais une éducation peu raffinée. Alors, Sainte Madeleine Sophie Barra s'entend donner des ordres tels que celui-ci. « Ma mère, descendez de voiture, la route monte, cela fatigue les chevaux. » Puis Sainte Madeleine Sophie se soumet aussitôt, puis elle dit... En souriant, j'ai si peu l'occasion d'obéir. Mère Barra, malgré bien des accros de santé, visite et fonde sans relâche. En 1836, elle fonde à Bruxelles, à Marseille, à Nantes et à Tours. Toutes ces villes ont maintenant, comme on dit, leur Sacré-Cœur. C'est devenu dans la langue, ça. Au Sacré-Cœur. On sait que c'est chez les sœurs du Sacré-Cœur. Et 3 ans plus tard, en 1839, la société compte 41 maisons. 41. Imaginez tout le travail, dont 27 en France. C'est absolument fantastique. Il faut conformer les constitutions aux nouvelles exigences, alors on crée des provinces. Le conseil qui entoure la mère générale est remanié, puis le noviciat et la maison mère sont transférés à Rome, et on croit bon de procéder à une adaptation aux règles de la compagnie de Jésus, des jésuites, oui. Puis dans la définition du but de l'institut, il n'est même plus question de Sacré-Cœur. C'est étrange, hein? Triste. Et ces décrets sont très douloureux au cœur de Madame Barra. Mais elle se tient en paix. Elle remet tout entre les mains de Dieu. Le pape Grégoire XVI comprend la situation et fait ce qui est en son pouvoir. Quant à la juridiction ecclésiastique, pour remettre les choses en ordre. Puis là, C'est alors le gouvernement qui crée des difficultés aux sœurs. Mais un recours de l'archevêque de Paris au pape achève d'apaiser la tempête. Je vous fais des résumés, si vous saviez tous les problèmes qu'elle a eus. Et Mère Barra souffre tout en silence. Le fameux Monseigneur Affre, archevêque de Paris, qui sera assassiné sur les barricades par les révolutionnaires quelques années plus tard, qui lui a déjà été opposé, n'hésite plus maintenant à déclarer d'elle, quand elle n'est pas là évidemment, c'est une sainte. Parce que la sainteté de Madeleine Sophie Barra est devenue évidente. Vers 1844, la paix rétablie au sein de la société permet l'extension du Sacré-Cœur en Algérie, puis en France, à Laval, Montpellier, Nancy, puis en Italie, en Galicie, en Angleterre, en Espagne. C'est de plus en plus rapide et fantastique. Et le Sacré-Cœur de Paris passe indemne à travers la révolution de 1848, un autre. Je dis, si vous saviez, quand on lit ça, on se dit comment elles ont fait pour survivre à tout ça, c'est pas possible. Parce qu'il était protégé par les actes de charité que multiplie cette mère générale, Sainte Madeleine Sophie Barra. Et c'est à cette époque troublée que la société des Sœurs du Sacré-Cœur acquiert une nouvelle maison près de Tours. Et les religieuses, et particulièrement la mère Barra, aiment y méditer la vie de Sainte Radegonde et celle de Saint-Martin dont je vous ai déjà parlé à Tours. Alors imaginez, dit la mère générale, le bonheur d'être seule comme les chartreux. Une maison, parce que les chartreux ont chacun leur petite maison, un jardinet, la récitation de l'office au cœur ou seul, me font venir l'eau à la bouche. Ah, tenez, parlons d'autre chose. Alors, elle est comme le curé d'Ars. C'est la nostalgie dont a souffert toute sa vie le saint curé d'Ars, dont je vous parlerai après-demain. Il rêvait toujours de se sauver à la trappe, en finir avec tous les problèmes. Le monde voit en 1848 donc l'invasion de Rome par Garibaldi. Pie IX a d'abord pensé se réfugier à la Trinité du Mont, là, qui est considérée comme une terre française, où est installé le Sacré-Cœur à gauche. On peut y aller quand on est à Rome, on peut aller voir cette belle chapelle des Sœurs du Sacré-Cœur. Elle est priée dans la paix. Mais il doit s'enfuir jusqu'à Gaète. La République romaine, à l'époque, l'Italie est en train de se former sous la lutte de Garibaldi, hein, qui veut réunifier l'Italie et s'emparer des États du Pape, hein, et former ce grand pays qu'est l'Italie. Alors, la République romaine a l'idée de déclarer les religieuses déliées de leurs vœux et libres, et c'est Rome qui est délivrée finalement. Mais l'avenir n'est pas rose, hein. Il y a le choléra qui survient. J'ai pas le temps de tout vous raconter ça. Et tout porte les Sœurs du Sacré-Cœur à vivre, mais pour elles, il n'est pas question de mourir. Elles veulent vraiment, ce sont des femmes actives et désireuses de faire le bien, mais plusieurs meurent avec le sourire à cause du choléra. La société grandit toujours, et en 1850, la mère Barra a 70 ans, sa congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur compte 65 maisons. Imaginez-vous ce que c'est de responsabilités qui sont réparties en 10 vicairies, comme on dit. Et le pape Pie IX, qui reçoit très paternellement la mère générale, lui accorde toutes les réformes qu'elle veut demander. Et de retour en France, elle reprend son activité, puis elle répond à un volumineux courrier, puis elle prend toutes les décisions nécessaires, mais toujours dans la plus profonde humilité, avec une spiritualité dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est remarquable. En 1854, Sainte Madeleine Sophie Barra, qu'on appelle Madame Barra, prend possession à Paris de l'ancien couvent des Feuillantines et tant de labeur achève de l'épuiser. Elle est atteinte d'une congestion cérébrale au cours de l'année 1865. Elle perd l'usage de la parole et après 3 jours de maladie, au cours desquels elle, j'ai lu tout ça, c'est superbe, elle donne de nombreux témoignages d'une haute vie surnaturelle. Et Sainte Madeleine Sophie Barra bien expire à Paris le 25 mai 1865 en la fête de l'Ascension. C'est extraordinaire, à 11h du soir. Alors elle suit donc son maître dans cette ascension vers le paradis. Elle avait une cassette, c'est-à-dire un petit coffret, si vous voulez, de ses notes intimes, mais quand elle meurt, on s'aperçoit qu'il est vide. Parce que dans un dernier geste, si on pourrait dire d'effacement total, elle a tout brûlé. Sainte Madeleine Sophie Barra lègue à ses filles, ses sœurs, un seul billet. C'est une exhortation à la générosité, à l'immolation par amour jusqu'au dernier soupir. La mère Barra laisse après elle le rayonnement persistant, qui persiste encore aujourd'hui, d'une sainte. Et elle a toujours su, toute sa vie, donner l'exemple d'une éducatrice hors pair, comme je vous l'ai signalé par quelques exemples, on en aurait des centaines d'autres. Le secret de son action extraordinaire tient dans ce qu'elle a toujours travaillé à cultiver dans son âme, les qualités puis les vertus qu'elle voulait former dans les autres. C'est pas tout d'être une éducatrice ou un éducateur. Faut avoir déjà ces vertus-là qu'on veut transmettre aux jeunes. Elle dit cette belle parole, souvenez-vous de ça, nous ne formons que ce que nous sommes. Quelle façon admirable de parler. Nous ne formons que ce que nous sommes. Et elle le redit souvent, ça. C'est une très grande femme. Sa fidélité à cette consigne lui a fait atteindre les plus hauts sommets de la perfection. Nous allons maintenant entendre, extrait des prières litaniques anciennes, un disque, ces très belles litanies du Sacré-Cœur qui disent des choses comme « Cœur de Jésus, Fils du Père éternel, Cœur de Jésus formé par le Saint-Esprit, Cœur de Jésus uni substantiellement au Verbe de Dieu, Cœur de Jésus d'une infinie majesté, Cœur de Dieu, temple saint de Dieu, tabernacle du Très-Haut, maison de Dieu et porte du ciel. » C'est d'une beauté, c'est grandiose, alors écoutons ça ensemble, chanté par les moines de Solesmes. Sur Sainte Madeleine Sophie Barra, je tiens à dire que sa méditation, un jour devant la crèche, à Noël, la ramène à l'humilité et dans l'adoration. Et elle dit quelque chose de superbe, écoutez bien ça. Un Dieu, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, la sagesse éternelle, se réduit au silence et ne l'interrompt que par des cris enfantins. Un Dieu tout-puissant se soumet à d'humbles créatures, à que l'orgueil vienne ici se confondre et expirer. Pour moi, le grand mystère que je ne puis m'expliquer, c'est qu'à la vue de la crèche, une religieuse puisse encore tenir à l'amour-propre. L'oraison, je vous ai dit qu'elle pratiquait l'oraison de façon phénoménale. Et c'est pour Sainte Madeleine Sophie Barra un besoin instinctif, irrépressible. Elle tombe, comme on dit, en oraison, comme nous, certains d'entre nous, on tombe devant la télévision, on ouvre une télévision, où on laisse aller nos pensées à droite et à gauche. Elle y consacre, imaginez, 6 à 7 heures chaque jour. Qu'est-ce que c'est ça, l'oraison? C'est cette action d'être, une action intérieure, d'être présent à Dieu, qui nous aime pour répondre à son amour. Si elle souffre d'aridité spirituelle, c'est une raison pour elle de s'humilier davantage, parce qu'une personne qui pratique l'oraison ne pratique pas toujours l'oraison dans la joie, parfois c'est l'aridité. Sainte Thérèse d'Avila a eu 17 ans d'aridité, de sécheresse, si vous voulez. Le récit de la Passion la bouleverse. Et au cours d'une semaine sainte, elle a un cri merveilleux. Lorsqu'on étudie Jésus-Christ dans ce mystère, on voudrait souffrir en réparation ou en consolation jusqu'à la fin du monde et encore au-delà. Tellement elle l'aime, elle voudrait le consoler, l'entourer de soins, éponger son front, essuyer ses plaies, l'aider à porter sa croix, lui retirer sa couronne d'épines. La mère Barra communie chaque matin. Autrefois, elle s'y préparait quotidiennement par la confession, puis dans ses... C'est des coutumes étranges. Et dans ses dernières années, elle ne se confesse que tous les 2 ou 3 jours, ce qui lui fait dire plaisamment qu'elle commence à se convertir. Donc, elle pêche moins. Autre temps, autre façon, il y a 200 ans. Elle n'a... Pas 200 ans, mais disons 150 ans. Elle n'a jamais séparé l'amour de Dieu pour les hommes de la tendresse de la Sainte Vierge ou de Marie pour ses enfants. Elle se plaît à égrener son chapelet. Elle se délecte au Salve Regina. Elle vénère une petite statue de Notre-Dame de la Guadeloupe qui lui a été donnée. Elle a une dévotion pour les anges, spécialement Saint-Michel, qui est le patron de la Société du Sacré-Cœur, les Sœurs du Sacré-Cœur. Elle aime les saints. Elle aime particulièrement Saint-Pierre, qui est le roc. Saint-Paul s'est illuminé, comme elle l'appelle, du chemin de Damas. Et elle médite ses épîtres, évidemment. Puis Saint-Jean, le disciple bien-aimé. Saint-Ignace de Loyola. Saint-François-Xavier, ce grand missionnaire dont je vous ai parlé aussi. Je vous ai parlé de tout ce monde, hein. Sainte-Madeleine, dont je vous ai parlé, je crois, le 22 septembre. Sainte-Thérèse d'Avila, dont je vous ai parlé plusieurs fois, le 15 octobre. Et enfin, la bienheureuse Marguerite Marie Alacoque, ce sera repris là bientôt, dans quelques jours, il y a des reprises cet été, le soir à 22 heures, en juin, juillet et août. Il n'y en a pas d'émission le matin, par exemple. Alors Marguerite Marie, l'apôtre de l'amour de Jésus. Non seulement Mère Barra aime fraternellement toutes les congrégations féminines, mais elle ne prend pas au brage d'une certaine imitation. Elle va même jusqu'à communiquer les règles de son ordre à un institut naissant, puis elle dit qu'on lui laisse l'humilité et qu'on prenne tout le reste. Elle est vraiment admirable. Il paraît bien que Sainte Madeleine Sophie Barra a reçu le pouvoir de venir en aide, surtout aux élèves, aux étudiantes. Cependant, Sainte Madeleine Sophie Barra est pour tous, pour nous tous, et souvent pour les familles pauvres, la mère qui console, qui guérit. Elle vient en aide, dit-on, dans les difficultés les plus variées, les plus diverses, que ce soit d'ordre spirituel ou temporel. Et son culte, en raison des fondations du Sacré-Cœur à travers tout le monde entier, en Amérique, aux Indes, en Papouasie même, mais il y a des postes qui portent son nom, comme la paroisse ici à Montréal, s'appelle Sainte-Madeleine-Sophie. Et puis, il y a des conversions qui s'y opèrent. En Papouasie, on a même parlé de sorciers qui se sont convertis, comme aux Indes aussi. Les miracles de Sainte-Madeleine-Sophie sont très nombreux. Je vous en raconte un brièvement. 1867, Nancy Balrewell, une fillette de 11 ans, de Saint-Louis, Missouri, a été guérie d'une coxalgie aiguë. Ce miracle a été retenu pour la béatification. En 1912, une religieuse, mère Salm, qui était une religieuse Sacré-Cœur, âgée de 38 ans, a été guérie d'une déviation de la colonne vertébrale, contractée depuis l'âge de 11 ans. Ça déformait son buste. Ça occasionnait des douleurs aux membres et à la tête. Cette religieuse a été guérie à Jette, en Belgique, le 27 juillet. Le soir de ce jour, Sainte-Madeleine-Sophie lui est apparue. Ce miracle a été adopté pour la canonisation. Sainte-Madeleine-Sophie est apparue, dit-on aussi, assez souvent, à une sœur coadjutrice du Sacré-Cœur, la fameuse Sainte Josefa Menendez. On dit qu'elle est sainte, mais je ne suis pas si sûr, dans le texte que j'ai. Elle serait apparue entre 1921 et 1923. Les détails de ces apparitions sont relatés dans ce fameux livre de Sœur Josefa Menendez, Un appel à l'amour, qui a été très populaire autrefois, témoin de la mystique, si on peut dire, d'une de ses filles privilégiées, qui, à l'imitation de Sainte Madeleine Sophie, n'a vécu que pour le cœur de Jésus et son amour. C'est le secret de la vie de Sainte Madeleine Sophie, l'amour de Jésus, ce Sacré-Cœur brûlant d'amour.